Il y a des couleurs de peau et des couleurs musicales, des blanches et des noires sur la partition, des écritures chamarrées et d'autres en encre sympathique, un arc-en-ciel d'émotions à même la page blanche. Il y a la musique qui prend la couleur du temps et des souvenirs sans jamais devenir sépia.
Pascal Paradou.
Au jeu des couleurs, je crois deviner celle que préfère mon invité, le chanteur Corneille, qui sort son 9e album et ainsi célèbre ses 20 ans de carrière. Bonjour Corneille.
Bonjour.
C'est bien ça ?
C'est bien ça.
20 ans. C'est beaucoup ?
C'est beaucoup.
Comment vous regardez ce temps passé ?
Avec beaucoup d'humilité, déjà, avec beaucoup d'incrédulité aussi. C'est dur à comprendre, en fait. 20 ans, quand j'ai commencé, pour moi, les gens qui avaient 20 ans de carrière, ils avaient 100 ans, quoi. Puis en plus, c'est un métier un peu compliqué. Il faut compter en années de chien, hein. 20 ans, c'est... Et je conçois que c'est un privilège, déjà, d'avoir été dans le cœur du public aussi longtemps. Et j'ai l'impression que ça s'est passé très vite, en même temps. C'est 20 ans, c'est 9 albums... Pour moi, j'ai bossé sur d'autres projets sur lesquels je n'étais pas interprète. Et tout ça s'est enchaîné assez rapidement. La vie à côté, les enfants. Alors faire le bilan de tout ça et se dire 20 ans, ouais, il y a quelque chose d'un peu vertigineux. Hein. C'est dur à saisir.
20 ans et quelques cheveux blancs, déjà.
Et quelques cheveux blancs. Il en faut.
C'est quoi cette couleur préférée ? Votre couleur préférée, Corneille ?
Ma couleur préférée, je ne sais jamais y répondre, parce que j'en ai plusieurs, ça dépend du jour, ça dépend de la température. J'aime beaucoup le bleu, mais j'aime beaucoup le rose aussi.
Ah.
Particulièrement, en ce moment, c'est un album que j'ai intitulé « Encre rose », en réponse à la guerre des mots que j'ai observée parallèlement à la crise sanitaire. Moi, j'ai vu une autre crise qui se jouait à côté, qui était une vraie guerre de mots, une guerre de positions, d'opinions. Pas beaucoup de nuances, pas beaucoup de place pour de vrais dialogues. J'avais envie d'écrire un album à l'encre rose. Ouais.
Mais où cette guerre des mots ?
Sur les réseaux sociaux, soit à la télé, à la radio... Partout, sur toutes les caisses de résonance, j'ai pas trouvé beaucoup de sagesse. En tout cas, j'en ai pas beaucoup entendu.
Et ça vous fait un peu peur ?
Ça m'a fait peur. Mais ce qui m'a fait le plus peur, c'est de me rendre compte de la facilité avec laquelle on pouvait se laisser piéger par ces mouvements de certitude. Je sais qui je suis, je sais qui tu es, donc je sais contre qui il faut que je sois, machin. Et complètement passer à côté du fait qu'on est tous pluriels. Puis il y a eu des flux migratoires qui font qu'on peut venir d'Afrique et se sentir complètement canadien ou québécois et complètement français, ou pas du tout, et que tout ça est possible et tout ça peut cohabiter. Donc, ça m'a... Et j'ai pas senti beaucoup de bienveillance, on va dire.
C'est vrai qu'il y a souvent des flots de haine sur les réseaux sociaux et que donc cet album...
Des fois est un euphémisme.
Cet album Encre rose serait une réponse. Et c'est donc la couleur de l'amour, le rose, enfin la couleur prétendue de l'amour, parce que je ne suis pas sûr que toutes les histoires d'amour soient roses tout le temps.
Oh, pas du tout. D'ailleurs, je pense que l'amour, le vrai, est rose de temps en temps et il porte plein de couleurs aussi. Hein.
Et puis, il faut faire attention à l'eau de rose. Il fait un peu mièvre, quoi. Un truc à l'eau de rose, c'est un
ouais,
peu...
Ouais, mais j'aime bien une fois de temps en temps les trucs un peu mièvres, des trucs qui font... qui t'endorment un petit peu, qui te laissent tranquille.
Vous êtes un homme doux.
Alors, c'est pas à moi de le dire, mais en tout cas, je tends vers ça, ouais.
Encre rose, c'est donc le titre de votre album, Corneille. Quelle serait la couleur musicale ? Rose toujours ?
Ah, excellente question. Je sais pas pourquoi, mais Orange.
Orange ?
Ouais, et un peu de jaune et un peu de rouge, des couleurs qui parlent. Parce que je me suis beaucoup inspiré de la soul et du R&B fin des années 70, début des années 80. Et dans les années 80, il y avait beaucoup de costards croisés de toutes couleurs pétantes. Plus ça pétait, mieux c'était. Il n'y avait pas beaucoup de beige ou de blanc. Il y avait beaucoup de rouge, de violet, donc multicolore.
Ouais, donc flashy. Pour les auditeurs, je peux quand même dire que vous êtes avec un sweat gris.
Ouais.
Hein, ça manque un peu de couleur.
Parce qu'on est à la radio.
de mon cœur. Pas possible autrement, tu es mon commencement. J'aurais dû m'en douter, c'était bien trop beau. Un jour tu devais quitter, mais tous les départs arrivent trop tôt. À celle qui veille sur nous dans l'ombre, ici ou de l'autre côté de ce monde. J'ai c'est quelque chose.
C'était toi la plus forte, toujours en douceur. Mais si elle est pas de même mort, pourra jamais m'armer le cœur.
Tu m'as tout donné, tu m'as tout donné. Et tu me laisses l'essentiel.
J'ai c'est quelque chose, les folies que j'ose. Je tire à l'encre rose grâce à toi. Tu m'as laissé des choses.
Rose, titre de l'album et de la chanson de Corneille aujourd'hui. Notre invité, c'est, j'ai écrit assez funky, mais c'est vachement funky en fait.
Ouais, ça a été l'inspiration. Hein. La soul et le R&B fin des années 70, début des années 80 étaient très funky avec beaucoup de ces rythmiques de guitare. Parce que j'imagine qu'on était, voilà, c'était, on sortait d'une période un peu morose, le Vietnam aux États-Unis et tout ça. Et les gens avaient envie de faire la fête, porter des couleurs pétantes et chanter et danser sur du funk.
Mais c'est la période qui vous influence ou c'est des chanteurs en particulier dans
les deux.
Ces années-là ?
Les deux. Mais c'est vrai que des chanteurs comme Prince ou évidemment pour parler des plus évidents, mais Stevie Wonder et compagnie. Bon, Stevie Wonder, sa carrière s'étend sur plusieurs décennies, mais évidemment, ben il y a des chanteuses comme Chaka Khan et des groupes comme Shalamar, Gap Band, SOS Band, tous ces groupes et artistes des années 80 m'ont vachement influencé en fait. Et c'est la musique de mon enfance. C'est l'époque où j'avais une écoute assez passive, donc la musique était là comme un beau décor. Et finalement, ça a fini par plus m'imprégner encore que tout ce que j'ai aimé comme musique après.
Donc au Rwanda, puisque vous avez passé votre adolescence au Rwanda, dans ces années-là, on écoutait Stevie Wonder.
J'avais des goûts un peu particuliers. Il faut dire que j'avais des parents qui étaient vachement, on va dire, occidentalisés. Ils avaient fait leurs études en Europe, en Allemagne. Et donc, j'ai toujours eu un petit pied en Occident. Mais culturellement, oui, en tout cas en musique, la musique afro-américaine a toujours été très, très présente et m'a toujours intéressé. Et le R&B particulièrement. Donc, ouais, moi, quand j'étais gamin, je me rappelle, mon père avait des vinyles. Je me rappelle toujours d'un vinyle de Chaka Khan qu'il avait. Et là-dessus, il y avait un titre, une chanson qui s'intitulait « I Feel For You », qui avait été, en fait, une chanson de Prince à la base, mais avec laquelle il n'a pas eu beaucoup de succès et qui en est devenu un avec la sublime voix de Chaka Khan. Et voilà, c'est autant de souvenirs qui sont marqués par un son, par des chansons, par des voix.
Et vous pourriez chanter quelque chose de Chaka Khan ou de Stevie Wonder ?
Alors Chaka Khan avait un gros, gros tube, c'est une de mes chansons préférées, c'est « Ain't nobody does it better ». Makes me happy, it makes me feel this way. Ça, c'est un gros, gros tube des années 80 et c'est vrai que ça, c'est...
Et vous connaissez comme ça tout le répertoire ?
Oh, pas tout le répertoire, mais ouais, je connais pas mal. Je serais bon au karaoké.
Et à cette époque, est-ce que vous saviez que vous alliez devenir chanteur ? Et pas n'importe lequel, parce que quand même...
Pas du tout.
Entrer dans le métier avec deux disques de platine, star mondiale, non ?
Ah non, pas du tout. Ou alors, si le rêve était là, tout ça se jouait dans mon inconscient. Hein, mais non, moi, c'est à l'âge de 15-16 ans que ça a commencé, que j'ai commencé à réellement rêver de ça comme métier. Non, à l'âge des années 80, c'est mon enfance, c'est ma préadolescence. ça à 10 piges, je rêvais pas. Je rêvais d'être joueur de football, je rêvais pas de chansons.
Alors, on évoquait cette musique et cet album Encre Rose qui est fait pour danser, enfin qui est assez funky, mais je trouve quand même qu'il faut prêter l'oreille. Parce que dans cette chanson, il est dit « Tu m'as laissé des choses de là où tu reposes, tu m'as tout donné. » C'est pas les choses les plus légères que l'on puisse écrire.
Non, je pensais à ma mère. Premier degré, je pensais à ma mère. Je pensais, une fois de temps en temps, j'essaie de m'imaginer. Je connais des gens, j'ai rencontré des gens qui avaient eu des relations très compliquées avec leur maman. Et je lisais dans leur comportement au quotidien beaucoup de travers qui étaient directement liés au fait que voilà, la relation avec maman n'avait pas été simple. Et je me suis souvent demandé ce qu'aurait été ma vie si je n'avais pas eu la mère que j'ai eue. Il se trouve que j'ai eu une mère extraordinaire. Bon, alors c'est un truc un peu bateau à dire. Parce que, en plus, je n'aime pas quand les gens disent « Ah, j'ai eu une enfance parfaite, mes parents étaient parfaits, aucun parent ne l'est. » Mais en l'occurrence, ma mère était quelqu'un d'assez unique dans ce sens. C'était une femme qui avait fait de bonnes études et qui, en Afrique, dans les années 80 à 90, a réussi à devenir haut cadre dans une banque, tout en étant un petit peu mère, pas mère au foyer, mais elle n'a jamais été absente. Elle était là pour nous faire nos devoirs quand elle pouvait. Et elle était surtout très présente et elle m'a laissé... une image de la femme assez originale aussi, parce que pour moi, la femme, il n'y a pas de limite à ce qu'une femme peut choisir de faire. Et c'est très subjectif, hein, mais c'est juste parce que voilà, j'ai eu cette mère-là.
Alors, on connaît votre histoire, Corneille, parce que votre mère meurt quand vous avez 17 ans. Elle meurt, c'est un euphémisme, puisqu'elle est assassinée avec votre père pendant le génocide au Rwanda. Quelle trace cela laisse ? Plus de 25 ans après.
Oh là, il faut un fauteuil là. Alors, beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. Ça laisse évidemment un manque, un vide qui ne peut se remplir, évidemment, parce que c'est une absence. On peut pas. Il y a pas moyen de remplacer ce genre de fonction dans la vie d'une personne, une mère, un père, ça se remplace pas. Voilà, on cherche quand je suis devenu père moi-même, donc je cherche des clés. Évidemment, c'est pratique de pouvoir dire papa, comment t'as fait ou maman, voilà comment ça se passe pour mon épouse, comment ça se passait quand les enfants étaient jeunes et voilà, ce sont des choses qui restent, ce sont des douleurs qui restent et en même temps. J'avais 17 ans donc, et je me rends compte à quel point il m'avait laissé de choses. J'étais déjà construit en fait. C'est ça la leçon dans tout ça. C'est qu'en vrai, ils sont partis trop tôt, oui, mais assez tard pour que je sois déjà quelqu'un. Et je suis rempli de souvenirs heureux, rempli de leçons aussi, par le simple fait de les avoir observés et de me rendre compte que je suis en train de les imiter aujourd'hui, l'air de rien. Et c'est plutôt des modèles, même dans leurs erreurs, dans leurs failles, c'est des modèles pas mal à suivre.
Il y a une phrase dans une de vos chansons qui m'a particulièrement touché. C'est ma vie qui passe à chaque fois que leur nom est dit.
Ouais.
Vous voulez la nommer, votre mère ?
Alors, ma mère s'appelle Pascasi. Et mon père s'appelle Émile, ma mère c'est Pascasi, et c'était une femme, elle faisait quoi, 1m63, mais dans ma tête elle fait 1m90 quoi. J'ai toujours été le petit garçon de sa mère.
Vous en parlez à vos enfants ?
Ouais.
De leurs grands-parents ?
Ouais.
La transmission,
alors elle se fait pas encore assez volontairement, à mon sens. Je n'offre pas l'information spontanément, mais mes enfants sont très curieux, donc ils posent des questions, et là, je suis très heureux d'y répondre. Alors, on a des photos d'eux dans la maison, et en plus, ma fille ressemble à ma mère, mais grave, quoi.
Cette tragédie, cette douleur, ce manque, je ne sais pas quel mot vous mettez spontanément sur cet épisode et cette tragédie de votre vie, mais j'ai le sentiment qu'elle est plus ou moins présente, mais toujours en filigrane dans toutes les chansons que vous écrivez.
Un petit
ou alors
peu,
c'est moi qui ai l'esprit tordu et qui vois ça partout.
Non, 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 vous n'avez pas l'esprit tordu. Vous avez en partie raison quand même, parce que c'est qui je suis. Et j'ai un rapport avec des choses qui, dans la vie, moi, pour la plupart des gens, je ne sais pas, mon rapport à la mort, par exemple, mon rapport à la guerre, c'est parti d'en parler. Donc, j'ai un rapport avec certaines choses qui est différent, voilà, de la norme, et qui me permettent un certain recul. Mais effectivement, voilà, et en plus, bon, quand on connaît mon histoire, on s'imagine la chanson, la phrase que vous venez de citer, c'est une phrase dans une chanson qui s'intitule « Le prix des étoiles », qui est sur cet album, « Encre rose », et c'est une chanson à laquelle je parle, en fait, du fait qu'il faut mourir pour devenir une légende. Je parlais de mes collègues artistes, chanteurs, acteurs.
Donc, c'est pas forcément de votre mère ou de votre père que vous parliez. Donc, vous voyez que j'ai un peu l'esprit tordu.
Non, alors, pas forcément, mais quand même. C'est-à-dire que l'inspiration première est venue de là. Je pensais à des gens comme Whitney Houston, qui, jusqu'à leur mort, était devenu la risée des médias, voilà, bon, et droguée, machin, tout ce qu'on veut. Et dès qu'elle disparaît, bah, tout d'un coup, on l'encense, la plus belle voix jamais entendue, machin. Et je me suis toujours dit, ce serait sympa de dire à ces gens-là, avant qu'ils partent, qu'on pense ça d'eux ou d'elles. Mais ça vaut pour donc nos parents quand ils partent. Moi, je me suis rendu compte que je connais beaucoup de gens de mon âge ou un peu plus âgés. Bon, on arrive à l'âge où nos parents peuvent partir d'un moment à un autre. Et généralement, je ressens beaucoup de regrets de ne pas avoir dit. Alors, de leur vivant, les relations étaient compliquées. Et dès qu'ils ne sont plus là, tout d'un coup, on retrouve une sagesse, un recul et une indulgence face à eux. Et donc, non, vous avez raison, je parle aussi de ma mère, de mon père, de mes parents. Oui.
Alors, dans cet album, Corneille, il y a cette chanson que nous avons déjà écoutée qui donne son titre à l'album Encre Rose. Il y a le prix des étoiles que vous évoquiez. Il y a aussi Les hommes de ma vie.
J'ai tracé ma voix de nos souvenirs, un monde bien d'amour, mais parsemé de vos soupirs, tous ces coups d'œil pleins de confiance, oh, m'ont fait tout comprendre, eh, c'est ton absence qui m'a le plus fait apprendre. Bien sûr, je me souviens de tout ce qui a mal fini, mais le plus
ma vie, extrait du nouvel album de Corneille, Encre Rose. Alors, on entend l'influence de la musique américaine, mais vous écrivez en français.
Ouais.
Vous chantez en français.
Ouais.
Pourquoi ?
Parce que, premièrement, moi, j'ai grandi au Rwanda, et à l'époque, c'était un pays francophone, c'est-à-dire très peu de gens parlaient un bon français, mais c'était quand même la langue, on va dire, officielle. C'était la langue de la fonction publique. Et c'est la langue avec laquelle j'ai appris la culture, avec la langue française, en partie avec le cinéma français. Moi, avec la musique française, mais avec le cinéma français, moi, j'ai appris le cinéma avec De Funès, avec Belmondo, tous les films de Gérard Roury et Claude Zidi et tout ça, et même un petit peu de j'ai regardé des films de la nouvelle vague très très jeune. Je regardais Godard sans rien comprendre, mais je trouvais ça beau et puis ça me faisait rêver. Et donc j'ai parlé français très vite. Après, c'est aussi un héritage colonial, hein, parce que le Rwanda était une colonie belge, donc. Le français a été la première langue qui m'a fait rêver. Et après, j'ai découvert l'anglais, bien sûr.
Et vous parlez quelle langue ?
Ah, avec mon épouse, on parle français et anglais. Et ça dépend de quoi on parle. Si on parle d'une actualité française, par exemple, on parle français. Si on parle des États-Unis, on parle anglais. Donc, on passe de l'un à l'autre assez spontanément.
Et avec les enfants et...
Avec les enfants, on parle français.
L'allemand, jamais.
Non, l'allemand, jamais, mais ça va peut-être venir. On a de l'allemand, on a le kinyarwanda et on a le portugais par mon épouse.
Vous parlez un peu kinyarwanda ?
Oui, je parle, totalement, ouais, oui. Bien sûr. Et non, c'est... mais ça va arriver. Je pense que je vais apprendre quelques mots d'allemand et de kinyarwanda à mes enfants.
Petite leçon d'écriture, Corneille. Comment vous écrivez ces textes ? Pratiquement tout le temps avec Sofia de Medeiros, ouais. Donc votre épouse.
Exact. Oui, on écrit ensemble depuis plus d'une dizaine d'années. Pour moi, ça a été une benne pour moi, parce que jusque-là, j'avais fait, je sais pas moi, 4-5 albums où je faisais tout. J'écrivais, je composais, je réalisais.
Vous avez l'air fatigué en me racontant ça.
Ouais, bah, exactement. Alors, voilà, toute la réponse était dans mon expression. oui, à un moment donné, on manque de ressources. Et en même temps, j'avais le problème qui était celui de quelqu'un, effectivement, oui, qui avait toujours tout fait tout seul. C'est dur de laisser entrer... une autre personne dans sa bulle créative. Donc, il fallait que ce soit forcément quelqu'un en qui j'avais confiance. Et j'ai eu de la chance. La personne en qui j'avais le plus confiance, qui se trouvait être mon épouse, avait aussi une très belle plume. Et ça m'a beaucoup aidé. Et
mais ça se passe comment ? C'est-à-dire, elle commence une phrase, vous la finissez, ou c'est l'inverse ?
Non, même pas. Au début, ouais, au début, c'était... on a essayé de chercher, de trouver une espèce de méthode, mais ça finissait toujours par devenir assez libre comme procédé. Et finalement, on a trouvé un truc, mais on s'est fait confiance, en fait. Moi, j'ai découvert très tard qu'écrire en chanson, je trouvais ça compliqué. Je trouvais ça trop restrictif. J'ai écrit un livre en 2016 et ça a été un vrai bonheur pour moi parce que j'ai rencontré les plaisirs de l'espace, prendre le temps de dire les choses et d'être dans la nuance. Dans la musique, un couplet, un refrain, il faut que ça rime en plus, tu as des contraintes musicales, c'est compliqué. Et moi, mon vrai truc, c'est la musique, c'est les grilles harmoniques, suites d'accords, les arrangements, quels sons de batterie, quels sons de guitare. Et elle, son truc, c'est vraiment les mots.
Donc en fait, vous chantez ces émotions aussi.
En fait, je chante nos conversations. Et c'est très très vrai pour cet album. Chaque chanson est une extension d'une conversation qu'on a eue et dont on estimait qu'elle méritait une musique pour l'accompagner.
Et elle vous fait dire des choses que vous n'auriez pas forcément dites ou écrites spontanément ?
Ah oui, bien sûr. Elle me pousse, elle fait ça et des fois elle fait l'inverse. Elle me dit, on se calme un petit peu là quand même, parce que...
c'est un peu trop.
Là, ça va loin, ouais.
Alors, on vient d'écouter Les Hommes de ma vie, où on peut parler de votre père et j'imagine de quelques autres. Il semble qu'il y ait un autre homme qui est beaucoup compté pour vous, et vous l'évoquez dans une de vos chansons, c'est Mohamed Ali, ouais. Que vous citez dans « Rop a Dop ».
Je remets ça. Je flotte et pique comme un. si longtemps. On commence à prédire le jeu. Quand on était jeune, on connaissait qu'un mouvement. Dépasser, ne jamais faire la queue. Il y a un temps pour donner des coups. Il y a un temps pour résister. Et afin de rester debout, il faut savoir esquiver. Dans la vie, je suis un peu douté. Un peu douté. Un peu douté. Je perds, je gagne, je perds. Après, je remets ça. Et je remets ça. Oui, je remets ça.
Rop de paix, ça c'est le Corneille boxeur.
Ouais,
parce
ouais.
que vous êtes boxeur.
Ouais, je suis un grand fan d'arts martiaux et la boxe, ouais, c'est vrai que j'en suis fan. Et évidemment, la figure emblématique de ce sport-là, mais de l'histoire en général, Mohamed Ali, ouais, un grand fan du personnage.
Qui a donc inventé cette technique défensive de la boxe, c'est un art de vivre aussi pour vous ?
Ouais, j'ai trouvé en ça une belle philosophie de vie. Alors, voilà, évidemment, c'était ce fameux combat contre George Foreman à Kinshasa en 1974, où il s'est laissé coincé dans les cordes et il ne faisait qu'éviter les coups de Foreman. Et évidemment, pour le spectateur, c'était suicidaire. Et en fait, c'était un jeu psychologique. Et puis, par rapport à la vie en général, j'aime l'idée que l'on puisse ne pas succomber à la pression de répondre au coup à chaque fois systématiquement sans réfléchir, mais d'attendre le bon moment et donc de répondre selon ses termes. Voilà, et au bon moment. Et généralement, voilà, on fait une économie d'énergie. Et c'est pas mal comme philosophie.
La résistance est supérieure au combat. Ou à la guerre.
Ouais, et puis même que des fois, il faut plier plutôt que de résister, ou des fois, il faut esquiver plutôt que de résister, parce qu'on est trop dans le coup pour coup, comme si éviter ou accepter, parfois. Parfois même, se résigner ne veut pas dire être lâche, nécessairement. Des fois, on se résigne pour laisser passer les choses, accepter les choses telles qu'elles se présentent, et puis à un moment donné, bah, quand on est assez fort, on donne le bon coup.
C'est un album très positif.
Ouais.
Cette encre rose, un album de la résilience et de l'espoir. Le meilleur est devant, dites-vous. J'aimerais vous croire.
Ah bah oui, bah forcément, le meilleur est toujours devant quand ça va mal. Il n'y a pas une époque qui est restée obscure éternellement. C'est ça la promesse. C'est le même cycle. Après chaque guerre, bah, y a eu une fin de guerre. Bon. Après chaque récession, il y a eu un boom économique. Ce sont les mêmes cycles à chaque fois.
Bon, ouais. Vous allez revenir tous les mois.
Avec plaisir.
Avec
plaisir.
Merci beaucoup, Corneille. Encre rose, votre nouvel album est édité chez Seiwei Music. Album qui est dédié à tous les enseignants ouais. du monde. C'est étrange.
Ouais, merci de l'avoir relevé.
C'est écrit en tout petit, mais ça se voit quand même. Ah, et c'est ouais. remarquable.
Ah oui.
Pourquoi les enseignants du monde ?
Parce que, en ce qui me concerne, en tout cas, moi, j'ai trouvé que ils avaient été de vrais piliers de nos sociétés. Je trouve qu'ils ont travaillé dans des conditions tellement difficiles. Ils ont fait honneur à leur profession et à leur vocation dans l'école de mes enfants. Jamais ils se sont plaints. Ils ont accueilli nos enfants avec bienveillance, avec plaisir même des fois. Masque, pas masque, vaccin, pas vaccin. On ne sait pas quoi faire, comment on fait, parce qu'on a affaire à des individus en construction. Et ils étaient sensibles à ça. Et ça n'a pas été simple pour eux. Et pourtant, bon, on n'érige pas de statut pour eux. Puis je trouve que leur salaire ne correspond pas forcément à ce qu'ils apportent à la société. C'était
aussi bien au Canada qu'en France.
Ah, moi, je pensais au Canada parce que je n'étais pas en France pendant la pandémie. J'étais vraiment au Canada et je pensais aux enseignants canadiens. Mais j'imagine que c'est à peu près la même chose partout dans le monde.
Donc, faute de statut, un album Encre Rose dédié donc à tous les enseignants du monde. Merci beaucoup, Corneille, De Vive Voix, Pascal Paradou, programmation, Cécile Lavolo, Guillaume Ploquin à la réalisation. Et on se retrouve très vite.